Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Café. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 3 avril 2019 et pour ce numéro, j'ai l'honneur de recevoir un chroniqueur habituel et historique de Tech Café, Pierre-Olivier Diebmann. Comment vas-tu, Pierre-Olivier?
Salut, écoute, ça va pas mal du tout, et toi, Guillaume?
Ben oui, ça va très très bien. Écoute, on est bien là, tranquille, en tête à tête, hein, parce que
On est
voilà,
bien.
Guillaume est toujours sur sa borne, hein, et il aurait entendu dire, enfin on l'aurait entendu dire, hurler même, je partirai pas avant d'avoir fini Final Fight en un seul crédit. Alors, oui, un crédit, c'est mieux, hein, parce que c'est vrai que l'arcade, ça coûte cher, mais ça demande aussi énormément de skill, hein, puis c'est très violent pour les poignets quand même. Moi je m'inquiète un petit peu, parce que bon, la rééducation après une tendinite ou un arcade stick elbow, ben, ça peut être cher, et puis je suis sûr que c'est pas remboursé par la sécu. Donc si vous aussi vous voulez contribuer à la mutuelle blessure vidéoludique de Tech Café, ben, c'est possible, et il suffit d'utiliser Patreon, parce que Patreon, ça vous permet de contribuer à partir de 1 euro. Pourquoi donc? Eh bien pour ce podcast chatoyant qui fait le bonheur des petits et des grands. Bon, si Patreon c'est non pour vous, eh bien les étoiles c'est idéal. Comme tout bouche à oreille électronique ou pas électronique, hein, avec une vraie bouche ou peut-être une vraie oreille, ou alors juste avec des posts, avec des relais sur Twitter, ou comme vous voulez, c'est vous qui voyez les étoiles, les retweets, tout ça, ça fait du bien à notre visibilité, ça fait aussi du bien à notre petit cœur. Donc voilà. En conclusion de cette introduction, qu'est-ce qu'on a au menu de Tech Café ce soir? Alors, on parlera réseaux sociaux, on parlera de haine, de pouvoir, de dérégulation, ou de régulation, on sait pas trop. On aura ensuite une autre section qui concernera la vie privée, la vôtre, la mienne, la leur, et surtout celle de Jeff Bezos, et bien évidemment. On s'intéressera ensuite à la durabilité de la tech, au droit à réparer, hein, qui pourrait peut-être un jour se concrétiser. Et on conclura bien sûr avec une section de news courte, mais bon, évidemment, c'est pas la taille qui compte. Bon, évidemment, je n'ai pas parlé, mais on aura aussi, bien entendu, des bonus édifiants. Et alors, donc toujours dans le contexte, alors on commence donc notre truc avec un petit peu de réseaux sociaux et de régulation. Donc, Facebook, hein, toujours dans le contexte des suites des attentats de Christchurch, qui a plus largement attiré l'attention sur les problèmes de modération et de diffusion des contenus sur les réseaux sociaux. Facebook a annoncé pas mal de choses cette semaine, finalement. Alors, bon, premièrement, c'est forcément avec une pointe d'ironie, peut-être, qu'on a lu quand même les gros titres annonçant que Mark Zuckerberg appelait les pouvoirs publics à plus de régulation. Voilà, c'est une tribune publiée dans tous les grands médias. Il y a eu le Washington Post, Outre-Atlantique, et ici, il y a eu le Journal du Dimanche. Voilà, et Mark, il reprocherait presque au gouvernement de ne pas assez en faire pour protéger les citoyens. Bon, c'est étonnant, hein, d'autant qu'il a principalement cité quatre problématiques qui lui ont elles-mêmes, enfin, qui lui ont causé bien des soucis ces derniers mois. Donc, il y a les élections, le contenu offensant, la confidentialité des données et la portabilité de bah, ces mêmes données. Donc en gros, Marc souhaite switcher de pire cancre de la classe à gros faillot. Et tout ça, bah, en un retournement de veste qui est tellement rapide qu'il a dû provoquer un bang sonique. Alors, Facebook travaillerait déjà avec les pouvoirs publics pour filtrer le contenu haineux. Hein, il soutient l'Open Source Data Transfer Project. Bon, la portabilité des données, et il appelle aussi à la création carrément d'un RGPD mondial, et il demande carrément au gouvernement de légiférer sur les publicités politiques, et pas seulement en période électorale d'ailleurs, mais tout le temps. Bon, écoute, c'est assez quand même fort, n'est-ce pas, Pierre-Olivier? Facebook qui devient l'élève modèle, qui même donne des leçons aux autres, est-ce que c'est réjouissant, ou bien c'est juste une manière de garder la main quand tout part en sucette?
Alors, pour moi, c'est complètement une manière de garder la main. Mon raisonnement, c'est que, en fait, maintenant que Facebook a investi massivement dans des outils de modération qui soient automatiques ou humains et a mis en place des façons de collaborer avec les pouvoirs publics, le raisonnement économique est que c'est un coût extrêmement important pour d'autres nouveaux acteurs qui ne pourraient pas les mettre en place sans avoir énormément d'investissements. Donc, à mon avis, pour lui, c'est une façon de protéger Facebook, tout simplement, d'une potentielle concurrence, à un moment où c'est clair que Facebook est peut-être en perdition. Ça se voit pas encore dans les chiffres, mais en tout cas, la croissance du nombre d'utilisateurs est plus forcément aussi intense qu'elle ne l'a été. Et donc, à mon avis, économiquement, c'est plutôt malin.
Oui, je pense aussi que c'est assez malin parce que bon, de toute façon, est-ce qu'il avait vraiment le choix? Enfin, tu vois, il pouvait pas le faire autrement, quoi. Donc finalement, voilà, il se transformerait en défenseur de notre vie privée. On verra bien ce que ça donne. Autre actu Facebook de la semaine, hein, la modification des conditions d'utilisation du site, hein, qui ne tolérera plus aucun contenu nationaliste blanc et séparatiste blanc. Alors, deux thèmes qui se mélangent souvent avec d'autres trucs en ist pas très très jolis. Et voilà, donc pour l'État, toute recherche à caractère suprémaciste, on verra sur une ONG, hein, ça s'appelle Life After Hate. Alors la tâche va être difficile, hein, Facebook prévient que les posts les plus évidents seront éliminés rapidement, mais que ceux qui sont plus subtils ou implicites, bah, ça risque évidemment de prendre plus de temps, parce qu'on se doute que ça va être beaucoup plus difficile à automatiser, quoi. Alors, d'ailleurs, dans le même état d'esprit, Reddit, ce 1er avril, a marqué le coup, en désactivant donc le subreddit Games, sur les jeux vidéo, donc, hein, en protestation contre la haine qui est trop habituelle, hein, qui se propage sur le réseau, en particulier sur ce subreddit-là, et les modérateurs ont pour l'occasion publié 71 exemples de commentaires modérés contenant des propos pas franchement glorieux et typiques de ce qu'ils voient tous les jours. Alors bah, par contre, malheureusement, j'ai réessayé juste avant le podcast et le lien qui était sur Imgur semble ne plus fonctionner, donc vraiment, vous ne pourrez plus le voir. Bon, je vous dis, c'était pas très réjouissant tout ça. Je sais pas si tu as vu ça, toi, Pod.
Non, j'ai pas vu, mais malheureusement, avec mon expérience sur Frandroid, je peux assez facilement imaginer le genre de commentaires qui étaient publiés. C'est assez lamentable, et en plus de ça, c'est une corvée pour les modérateurs. Quand c'est un forum où les modérateurs sont bénévoles, c'est juste un manque total de respect. Et puis quand c'est un média et que ça se passe dans les commentaires d'un article, faut imaginer que bah c'est beaucoup de ressources, y compris financières, hein, qui sont investies pour passer du temps là-dessus. C'est vraiment pas cool, et c'est très 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 problématique, parce que certains journalistes finissent par éviter certains sujets pour leur propre santé mentale.
Et c'est ça, tu t'auto-censures quasiment, parce que tu sais que sinon ça va partir en couille, quoi. C'est terrible, hein.
C'est affreux.
Et donc oui, sur Facebook donc essaye de virer les. Alors il y a une nuance, hein, parce que moi j'ai vu qu'effectivement c'était le nationalisme blanc et le séparatisme blanc. Alors
c'est
différent du suprémacisme.
C'est un sujet un peu complexe. Il faut savoir que historiquement, ou en tout cas c'est la justification de Facebook, ils avaient du mal à agir sur les groupes suprémacistes. Parce que ils essayaient de faire la part des choses entre le séparatisme qui pourrait ne pas être ségrégationniste. On prend par exemple le débat sur un Québec indépendant, un Pays basque français espagnol uni et indépendant des deux pays, versus effectivement l'Amérique au blanc ou ce genre de choses. Idem pour les discours nationalistes, ben, c'est pas parce que on a une certaine fierté de sa culture et son pays qu'on est forcément fermé aux autres. Et donc auparavant Facebook essayait de faire ce distinguo. Le fait est que toujours d'après eux, les bienfaits sont largement mineurs par rapport aux méfaits, et ceux qui font le plus de bruit, eh bien ce sont ceux qui méritent le plus d'être censuré. Donc Facebook a mis à jour sa politique pour inclure tous les groupes finalement qui d'après eux appellent à la haine d'une façon ou d'une autre, et comme tu le disais tantôt, il y a un message d'avertissement qui redirige vers une ONG. Ceci dit, c'est une ONG américaine. Je trouve ça très très bizarre et très très maladroit lorsqu'on sait que c'est un changement de politique qui s'opère à la suite d'un attentat qui a eu lieu en Nouvelle-Zélande perpétré par un Australien. Qu'est-ce que viennent faire les États-Unis là-dedans ? Eh bien, évidemment, ils ont un certain nombre de problèmes, mais je pense que c'était peut-être le moment d'avoir un message soit localisé un peu partout, soit qui redirige vers une ONG beaucoup plus internationale et qui traite de beaucoup plus vastes problématiques de haine. Mais voilà, ça n'est que mon avis.
Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Oui, c'est certain qu'ils auraient pu essayer, ou je sais pas, au moins. Alors, peut-être que ça concerne les États-Unis. Je sais pas si Facebook en Australie renvoie sur une ONG australienne. Je n'en sais rien, apparemment pas encore. Alors, je
sais pas d'après leur communiqué de presse, en tous les cas.
Ouais, voilà, et c'est vrai que ce serait sans doute plus malin de faire ça, on est bien d'accord. Oui, c'est vrai que ce séparatisme blanc, c'est vrai que c'était assez étrange de parler de séparatisme, étant donné que c'est pas géographique. Enfin, il n'y a pas de caractère géographique particulier, quoi. C'est un petit peu bizarre comme terminologie, mais bon. Facebook, toujours, on en parlait, hein, Sheryl ne l'a pas encore fait, mais elle y pense. Oui, parce que dans une lettre au New Zealand Story, New Zealand Herald, pardon, Sheryl Sandberg dit explorer des pistes pour restreindre les lives. Bon, l'idée, ce serait de permettre les lives que pour des membres qui ont un casier Facebook vierge, en quelque sorte. C'est-à-dire, si un membre a une historique d'infraction aux conditions générales d'utilisation, bah, il pourrait ne pas être autorisé à streamer en live. Bon, une idée qui c'est pas une panacée, bien entendu. Bon, on sait qu'on a dit, on a parlé déjà, maîtriser les lives en temps réel, c'est hors de portée. Déjà que la modération, c'est parfois une casse-tête. Donc, par exemple, comment préserver le témoignage, même si celui-ci viole les conditions d'utilisation? D'ailleurs, bon, on peut même embrayer sur, en gros, comment conserver le fil de Donald Trump, par exemple. Donc, parce que voilà, ces sorties offensantes, c'est pas l'exception, et elles ont une importance pourtant dans le débat public. D'ailleurs, Twitter songe à les signaler comme inappropriées, mais à les conserver en ligne. Du coup, est-ce que ce type de modération serait efficace, hein? Et c'est Vijay Jagade, qui est le patron de la branche légale de Twitter, assure que si un tweet est une menace violente et directe, bah, il sera supprimé. Donc oui, il y aura une modération, mais voilà, c'est pas forcément, c'est difficile. Ouais. C'est vraiment un casse-tête de savoir quoi modérer et quoi laisser pour, disons, la documentation. Bah, je suis quand même content d'apprendre que Sheryl Sandberg écoute Tech Café, donc on lui fait la bise. Hein. Une petite bise à Sheryl, toi aussi, Paul?
Ben écoute, je trouve que c'est, enfin voilà, de toute façon, comme tu l'as évoqué, on a eu ce débat déjà auparavant. Ça s'est prolongé dans la salle de discussion de Tech Café et j'avais déjà exprimé mon avis. Moi, je suis très en faveur de ce genre de restrictions qui sont très peu restrictives, hein, c'est-à-dire que pour le commun des mortels, il n'y a pas d'enjeu et c'est vrai que c'est un sujet difficile parce que il y a le besoin d'une certaine censure raisonnée et en même temps il faut pas non plus que cette censure dépasse les cadres légaux d'expression et enfin de liberté d'expression et créer de nouveaux martyrs qui vont se réfugier sur des plateformes où ils sont les seuls et ont donc l'impression que tout le monde est comme eux. C'est un sujet extrêmement complexe, c'est difficile d'avoir une opinion très tranchée.
Oui, bien sûr. D'ailleurs, nous, nous, on parle de modération, d'ailleurs, et pas de censure, en fait, parce qu'il ne s'agit pas de censurer des opinions. Il s'agit de modérer des choses qui peuvent être dangereuses, tout simplement, des trucs qui peuvent avoir des conséquences dramatiques dans la vie, comme on l'a vu malheureusement très récemment. Donc, c'est pas, je pense que ceux qui parlent de censure sont ceux plutôt qui sont opposés à la chose. Hein. Nous, on
Effectivement.
parle plutôt juste de modération pour avoir, voilà, disons. Des plateformes un petit peu moins toxiques, quoi. Ça sera peut-être pas mal.
Voilà qui modère bien ce que je viens de dire.
Bah, c'est juste une question de terminologie, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent s'exciter juste sur la terminologie, quoi, parce que la censure, oh là là, c'est horrible, c'est horrible. Et en soi, oui, mais c'est pas de ça qu'on parle, en fait. C'est pas vraiment. Je pense que c'est pas vraiment de ça qu'on parle. On pourrait conclure cette section réseaux sociaux avec le HUD. Alors, HUD, c'est pas le Head Up Display, c'est le département du Housing and Urban Development, qui a Facebook, YouTube dans son collimateur, pour le coup, en cause d'abord une procédure débutée en août contre Facebook, qui soupçonne le réseau d'avoir violé le Fair Housing Act. Alors je crois que j'en avais peut-être parlé, mais bon, après je ne me souviens pas forcément de tout en détail. En résumé, Facebook permettait, via son ciblage publicitaire, d'exclure des gens de certaines annonces. Effectivement, hein, c'est simple, dans Facebook, Facebook Ad, donc le service de régie pub, d'exclure bah, soit des hommes, soit des femmes, des gens qui parlent une certaine langue ou alors qui vivent dans un certain périmètre. Donc, on avait aussi mentionné, il me semble que Facebook avait l'an dernier déjà viré des milliers, d'ailleurs le nombre nous avait beaucoup étonné, des milliers d'options de ciblage. Donc c'est déjà ça. Mais là, le HUD cible plutôt l'algorithme automatisé qui sert les annonces, en fait, hein, puisqu'il fonctionne selon des probabilités. Et en fait, il pourrait juste ne pas montrer des annonces sur la simple base que de son point de vue, l'utilisateur en question est trop peu enclin à cliquer dessus. Alors, comme on peut s'en douter, Facebook n'est pas le seul à avoir ce business model, et c'est sans trop de surprise que le HUD a aussi lancé des enquêtes sur Twitter et YouTube, qui sont aussi des régies pub, hein, globalement accolées à des services de vidéos et de blogging. Et donc, si cette procédure aboutit, Pod, est-ce que tu penses que ça pourrait préfigurer des changements dans l'algorithme de Facebook et de ses petits amis?
Mais c'est difficile à dire parce que déjà, il y a un twist légal. Comme tu l'as signalé, Facebook a retiré les options qui permettaient d'explicitement écarter différentes populations en raison de l'ethnie, le background social, la langue parlée, etc., de certains affichages publicitaires. Donc, est-ce que, au regard de la loi américaine, puisque pour le moment, on parle des États-Unis sur ce sujet, est-ce qu'au regard de la loi, c'est la même chose d'explicitement virer des gens ou qu'un robot calcule des probabilités que la personne soit intéressée, sachant que le robot, lui, il regarde pas particulièrement l'ethnie ou quoi, il se fonde sur l'historique de navigation de toi et des personnes qui te ressemblent et like les mêmes choses que toi. Ça c'est pas très clair. Reste ensuite après à déterminer est-ce que l'accès à la publicité, finalement, c'est quelque chose qui est un accès à l'information. C'est encore une notion qui est assez différente. Je suis assez curieux de comment cette histoire va se développer. Et puis, il faut aussi bien dire que si jamais, au niveau de la justice, on considère que c'est la même chose, ça va être assez difficile pour ces entreprises de déterminer quels sont les sujets publicitaires qui doivent être présentés à tous, sans distinction d'origine ethnique, d'origine sociale, de langue, de sexe, de genre, etc., versus les publicités qu'on a le droit de cibler. Ça me semble très, 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 très complexe et je pense qu'on a des années de développement devant nous sur le sujet.
Ouais, mais alors c'est vrai que là, tu as complètement raison, hein, parce que là, c'est l'essence même de l'algorithme, finalement, qui fait les pubs, qui donne les pubs, qui est à revoir complètement, et c'est même difficile, puisque voilà, c'est un petit peu les shadow profiles qu'on remet en cause, quoi. Hein, c'est vraiment, bon, voilà, ça serait une remise en cause des fondements même, je pense, de la manière dont fonctionnent toutes les plateformes, quelque part. Donc oui, c'est quand même intéressant à suivre, je pense, hein, toutes ces histoires. Donc du coup, oui, c'est ça, on parle de données personnelles, des données personnelles. On est ciblé par nos données personnelles, presque qu'on le veuille ou non, c'est assez complexe. Et bon, c'est vrai qu'il y a plein d'informations qu'on aimerait bien garder un minimum privées. Et bon, ça nous permet de transitionner en douceur sur notre deuxième section, hein, qui s'appelle donc Private Parts, puisque on va parler d'informations sensibles, hein, et puisque évidemment, parmi les informations sensibles, l'orientation sexuelle et puis les messages coquins qu'on peut envoyer, forcément, ce sont parmi les trucs qu'on veut garder le plus privé, comme par exemple les utilisateurs de Grindr. Alors, les serveurs qui stockent les infos de Grindr, forcément, c'est des infos qu'on pourrait qualifier de sensibles. Alors, Grindr, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Tinder de la communauté gay. Et il y a eu un revirement étrange cette semaine qui vient directement du CFIUS, le Committee on Foreign Investment of US, et qui s'est soudainement réveillé et qui a réalisé, pas complètement paniqué, que Grindr était devenu chinois depuis 2016, quand même. Hein. Alors, l'entreprise qui a été californienne, donc, hein, à l'origine, a été vendue à Beijing Kunlun Tech, et la semaine dernière, c'est devenu un enjeu de sécurité nationale. Il faut dire que Grindr connaît tous les petits secrets et les dick pics géolocalisés dont tu peux rêver, évidemment. Et en fait, identifier un utilisateur de Grindr, c'est sans doute pas très compliqué avec toutes ces données. Hein, et toutes ces données sont accessibles par Kunlun et donc par le gouvernement chinois par extension, comme d'habitude. Et là, bien sûr, tout devient imaginable. Chantage des dissidents à l'étranger, où une seule photo en uniforme d'un utilisateur suffit pour avoir une idée que ce mec est un militaire et donc pour pouvoir traquer tout son bataillon. Et voilà comment Grindr devient une faille stratégique. On se souvient d'ailleurs de l'application Strava, c'est une application de fitness, de running, hein, qui faisait exactement ça, c'est-à-dire qui faisait fuiter des informations de localisation des bases militaires, de manière très involontaire, bien entendu, juste parce que voilà, c'était mis à disposition. Alors, pour moi, en ce qui me concerne, je ne savais même pas que Grindr était devenu chinois, mais bon, c'est vrai, c'est assez marrant ce genre de truc, puisque ça devient un enjeu stratégique. Tu savais, toi, pote, que Grindr était devenu chinois ?
Non, je t'avoue que la news était passée un peu loin de moi, j'ignorais. Je trouve assez intéressant que les États-Unis se saisissent du sujet, sachant que eux-mêmes sont pas forcément ultra clean en ce qui concerne la communauté homosexuelle, mais bon, et en particulier d'ailleurs dans des contextes militaires, etc. Mais bon, voilà, sans commentaire.
Ouais, Bah, disons que voilà, c'est toujours la Chine. Hein, donc là d'ailleurs, on a Huawei aussi qui est Huawei sous le feu des suspicions, qui est au centre d'une énorme crise géopolitique. Pourtant, le géant va quand même très bien. Hein, merci pour lui. C'est un chiffre d'affaires en hausse de 19,5% à 107 milliards de dollars, pour plus de 8 milliards de bénéfices quand même. Donc voilà, tout ça porté plutôt par les ventes d'appareils grand public, hein, puisqu'apparemment son poids d'infrastructure lui reste stable. Une très très légère contraction, mais bon, on peut dire qu'assez stable. En ce qui concerne d'ailleurs les équipements, bah, c'est eux qui sont au centre de la discorde entre les États-Unis, la Chine et aussi d'ailleurs entre les Occidentaux au sens large, on dira, qui donc craignent que le gouvernement chinois ne puisse avoir un accès privilégié au cœur des réseaux. Hein, on craint l'espionnage et pourtant, peut-être qu'on devrait plus craindre les bugs, tout simplement, parce qu'il y a un rapport des autorités anglaises qui indique que le matériel Huawei possède de nombreuses failles élémentaires, en fait, hein, qui n'importe qui peut exploiter à sa guise. Donc en résumé, des backdoors, on ne sait pas. Par contre, il y a probablement une front door et en tout cas, minimum, une fenêtre avec des volets ouverts, ça, sans doute. Donc, il est probable d'ailleurs que Huawei ne soit pas le seul fabricant à présenter des faiblesses, évidemment, mais bon, c'est juste là, c'est sur lui que c'est tombé, puisque c'est lui qui a été audité. De son côté, d'ailleurs, Huawei remercie les auteurs du rapport, du feedback, et il promet quand même d'investir 2 milliards pour améliorer les choses. C'est, apparemment, ça a l'air d'être un minimum. Bon, toi, Pod, t'as une position sur la stratégie, t'as une position sur cette histoire de stratégie Huawei, tu surferais sur le 5G Huawei, toi?
On surfe déjà sur la 4G Huawei. Alors pour moi, j'ai du mal à voir pourquoi le débat part maintenant, sachant que de toute façon, même si on choisit d'autres équipementiers pour la 5G, la data transitera de toute façon par des équipements Huawei, qui est le leader mondial des équipements de téléphonie mobile. Alors je t'avoue que je trouve ça un petit peu. Je compte. Enfin, les suspicions d'espionnage sont fondées et les alertes sont très anciennes et de la part de différents services de renseignement. Maintenant, voilà, aujourd'hui, la situation, elle est installée. Et 5G ou pas 5G, ça ne va pas changer grand-chose.
Oui, c'est vrai qu'il y a toujours il y a toujours un truc, évidemment, quand. Le problème, c'est qu'effectivement, on suspecte Huawei, on se dit, bon, voilà, ils peuvent nous espionner tout ça, s'il n'est pas forcément faux. Le problème, c'est évidemment celui de l'alternative, c'est-à-dire que des infrastructures qui sont totalement américaines aux États-Unis ou totalement européennes en Europe, ben, ça va être très compliqué parce qu'on a accumulé un retard technologique qui est colossal vis-à-vis
Ouais, d'à peu
de la
près 10 ans.
Chine. 10 ans, voilà, bon, ben, donc, ok.
Je pense que j'exagère, hein, prenez pas ma déclaration pour argent comptant, mais clairement, les autres équipementiers réseau sont assez loin derrière en termes de tout, d'ailleurs, de qualité,
Ben,
de.
donc, alors après, là, la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que nous, utilisateurs, on peut bah, différer la 5G de 3, 4, 5 ans, peut-être, pour avoir une 5G qui serait purement européenne? Donc il faudrait faire une concession, est-ce que ce serait si grave que ça? Est-ce que bon, voilà, est-ce que ce serait. Alors évidemment, dans notre vie de tous les jours, ce ne sera pas forcément très grave. Après, à l'échelle stratégique, je ne sais pas. Mais voilà, pour l'instant, on en est là, quoi. Sinon, bah, je pense qu'il est temps d'aborder le sujet central de cette émission, et je veux bien sûr parler des photos du zizi de Jeff Bezos, évidemment. Parce que pour faire suite à tout ce qu'on avait dit sur l'ampleur démesurée qu'avait pris le sujet, et là je parle bien sûr de l'affaire, hein, bien sûr géopolitique, impliquant potentiellement l'Arabie Saoudite, et c'est une piste qui a été explorée par une équipe d'investigation montée par Jeff, et qui avait un chèque en blanc, globalement, pour remonter toutes les pistes possibles. Alors déjà, la piste du frère de la maîtresse de Bezos sera un leurre. Donc c'est d'ailleurs c'est l'unique source citée par le journal qui a eu les photos et qui a tenté de faire chanter Bezos. Grossière erreur, on en a déjà parlé. Et les enquêteurs sont allés très loin. Ils ont interrogé les cadres de AMI, la compagnie qui possède l'Inquirer, des experts du renseignement spécialisés dans le Moyen-Orient, des experts en cybersécurité. Ils ont, enfin, des mecs qui ont traqué, hein, des malwares saoudiens. Il y a même des anciens conseillers de Trump et des dissidents saoudiens et même des proches du prince MBS. Donc, tu sais, hein, ça aide d'être milliardaire, hein, quand tu vas faire une grosse enquête comme ça. Et leur conclusion, bah, c'est que les Saoudiens ont de vastes capacités à hacker tout ce qui leur chante, et en particulier les téléphones, et qu'ils auraient utilisé ça, hein, toutes ces capacités, bah, dans l'affaire Khashoggi. Accessoirement, on apprend qu'ils auraient noyauté Twitter, d'ailleurs, au passage. Et les Saoudiens auraient donc lancé une mini-cyberguerre contre Amazon en octobre dernier. Alors, c'est assez fou. Bon, ils ont l'air très sûrs d'eux, pardon. Je pense que l'affaire pourrait-elle mener à un froid diplomatique, Pod, mais je crois qu'ils sont en aidés. Les États-Unis et l'Arabie Saoudite sont déjà un petit peu en froid, il me semble.
Oui et non, hein. avec le Donald, on ne sait jamais vraiment sur quel pied danse la diplomatie américaine, mais enfin, effectivement, la diplomatie institutionnelle est celle qui survivra au président actuel et au suivant, hein, d'ailleurs, est effectivement plutôt en froid avec l'Arabie saoudite et pour différentes raisons. Et c'est de plus en plus le cas d'ailleurs de toute l'Amérique du Nord, hein, pas seulement des États-Unis. Quelles seront les retombées de cette affaire-là? Ça va être assez difficile à dire. Moi, je suis assez curieux de voir aussi si tonton Jeff est capable de fournir ces éléments de preuve et de suspicion en cours. Parce que là, pour le moment, on se parle de la vendetta d'un milliardaire, et même si on pense que c'est fondé, c'est assez différent que d'arriver à l'issue d'un procès qui établit clairement une culpabilité sans doute raisonnable.
Oui, effectivement, là, pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est Google, enfin, ça a été relayé par les différents médias, quoi, mais bon, il n'y a pas encore d'enquête, effectivement, officielle en cours,
Je suis assez curieux de savoir, d'ailleurs, si les renseignements, qu'ils soient américains ou d'autres pays, ont soit collaboré directement, hein, directement à cette enquête ou ouvert la leur, parce que ça reste quand même, même si c'est un individu en particulier, ça reste un sujet d'intérêt national, hein, puisque c'est quand même un des géants de l'économie numérique. C'est une belle saga qui s'ouvre et qui va probablement nous tenir en haleine assez longtemps.
Exactement, et dont on reparlera bien entendu ici, puisque nous on aime ça les sagas de la tech. Alors, quelles informations sont plus intimes et plus personnelles que notre ADN, hein? C'est aussi quand même une part essentielle de la police scientifique, d'ailleurs, parce que ça peut aider les enquêtes, hein, et il se trouve que le FBI ne pouvait pas laisser passer la manne de données génétiques que représente la prolifération des sites d'analyse grand public, hein, comme 23andMe ou FamilyTreeDNA. Et d'ailleurs, en février dernier, ce même FamilyTreeDNA, il a laissé le FBI puiser dans ses ressources, hein. Le truc, c'est qu'il a fait sans en informer ses utilisateurs, ce qui, à l'époque, avait soulevé une controverse. Mais bon, ça, c'est en 2018. Voilà, les temps changent, hein, et depuis, ce qui était considéré comme un bug est devenu une feature, puisque FamilyTreeDNA fait désormais un spot de pub à la télé pour inciter les gens à envoyer leurs données, et ça, justement, pour aider la police. Donc, au passage, d'ailleurs, la boîte vend aussi désormais des services génétiques aux autorités. Un opportunisme qui laisse assez songeur, je trouve. Alors, Paul, à ton avis, l'avenir, c'est de crowdsourcer les enquêtes, ou est-ce que c'est juste la faille ultime de la vie privée pour toi?
C'est toujours super intéressant de crowdsourcer les enquêtes police, et d'ailleurs je vais faire un petit peu de pub pour un podcast qui s'appelle Distorsion, que vous écoutez peut-être déjà ou que vous allez peut-être découvrir. Ouais, Distorsion, donc l'idée c'est des histoires criminelles mais avec un twist numérique. Donc soit le crime a eu lieu grâce aux outils numériques, soit il a été résolu ou on a tenté de le résoudre grâce aux outils numériques. Et donc dans ce cas-là, on parle essentiellement de crowdsourcing d'enquêtes. Et effectivement, il y a des affaires qui ont été résolues grâce à ça. Il y a des affaires qui avancent petit à petit grâce à ça, des pistes qui se ferment, des gens qui avaient encore espoir de retrouver une personne disparue qui savent maintenant que cette personne est décédée. Ça soulage, entre guillemets. Bref, c'est quand même assez intéressant. De là à dire que je vais shooter mon ADN volontairement à la police pour que j'ai des cousins ou autres qui se fassent gauler, je ne sais pas. Je suis un petit peu quand même paranoïaque là-dessus. Et puis, je me dis que quelque part, il y a quelques années, on ne trustait pas les preuves d'ADN parce qu'on pensait que la science n'était pas encore assez fiable. Aujourd'hui, on est peut-être en train de faire le péché inverse, de se dire « Ok, c'est une science fiable, on peut condamner des gens sur la base d'une seule preuve qui serait une preuve ADN. » Et je pense que dans 99% des cas, c'est légitime. Mais je pense que les moyens pour faire de l'ADN spoofing, demain, ils seront pas si inaccessibles et qu'il peut se passer un certain nombre de problèmes. Donc, et sachant que ces bases de données de police, elles sont pas là juste pour 5-10 ans, hein, elles vont être là probablement pour le siècle prochain. Moi, j'irai pas trop mettre mes échantillons là-dedans.
Oui, c'est vrai que j'ai une petite hésitation aussi à envoyer mon ADN à 23andMe, d'autant que je ne vois pas très bien à quoi ça sert pour le coup. Mais bon, on a déjà parlé de la fiabilité toute relative des analyses que donnait ce genre de site. Par contre, tu parlais d'ADN spoofing. Donc, je suppose que c'est quoi? C'est une méthode pour contaminer les scènes de crime avec un ADN qui n'est pas le tien ou ce genre de choses?
Oui, soit générer des marqueurs ADN qui n'appartiennent à personne, soit qui appartiennent à d'autres. C'est pas quelque chose qui existe aujourd'hui, mais enfin, c'est clairement quelque chose qui est à la portée du génie génétique. Et il n'y a pas de raison, comme toutes les technologies, que le coût ne devienne pas tout d'un coup absurdément accessible au point que ça soit un problème, hein. On peut tricher sur les empreintes digitales et on sait qu'aujourd'hui un seul doigt, une seule empreinte de doigt suffit pas à condamner quelqu'un dans la plupart des cas. Ben l'ADN, ça, un jour, ça va être comme ça, hein.
Ah oui, donc c'est tu prévois des jours sombres pour la police scientifique, hein, parce qu'il se repose pas mal sur les analyses ADN, quand ça
Ah
va
oui,
être un gros
mais
problème, hein.
on trouvera d'autres choses, des marqueurs phéromonaux, on trouvera toujours quelque chose, mais bon, comme dans toutes les techniques et toutes les sciences, hein, il va y avoir le jeu du chat et de la souris.
Ah, c'est très intéressant. Et écoute, vie privée toujours, avec ce coup de sang des locataires de Brownsville Atlantic Plaza, donc c'est à Brooklyn. Le propriétaire veut installer un système de reconnaissance faciale à l'entrée, il s'appelle Stone Lock, et il remplacera le bon vieux Digicode, hein, je suppose. Et évidemment, il sera plus curieux que le bon vieux Digicode, il sera même trop curieux pour beaucoup de locataires. Hein, pourtant, c'est pas une première. Dans le Bronx, il y a un complexe d'appartements neufs qui utilise exactement le même système comme argument de vente, carrément. Donc bon. Parce qu'évidemment, c'est super sécurisé, tu comprends, la reconnaissance faciale, on sait à quel point c'est fiable. D'ailleurs, au Atlantic Plaza, la vidéo ne se limite pas à l'entrée, il y a aussi des caméras à l'intérieur et des locataires qui ont reçu des courriers avec des descriptions qui sont vraiment très très précises et qui montrent qu'en fait, voilà, ces caméras ne sont pas là juste pour faire joli. Alors, sera-t-il possible de refuser de se faire scanner ou tout ceci sera-t-il juste un outil de gentrification? Voilà, parce qu'il semble que le promoteur en soit déjà à plus de 100 expulsions de ces divers complexes immobiliers. Bon, on sait pas trop, je sais pas. Enfin, toi, Pod, tu as des caméras dans tes bâtiments? Moi, j'en ai pas encore, et franchement, je suis pas forcément pressé d'en avoir, pour être honnête.
Non, j'ai pas. Je pourrais envisager d'avoir ça pour la maison. Et encore là, il faudrait un truc dont je sois vraiment sûr qu'on peut pas cheater avec une photo ou ce genre de choses. Et puis, mais en aucun cas, je serais d'accord pour l'installer sur une copropriété. Et encore moins dans un système de condominium à l'américaine où le promoteur immobilier reste l'équivalent du syndic, et on a un contrat avec eux et on ne peut pas les dégager, c'est mort. Enfin, voilà. Je ne les laisserai pas faire ce genre de choses. Ils peuvent gérer une piscine s'ils veulent, mais pas mes données perso.
Oui, je pense aussi, effectivement. Alors, on peut continuer avec l'intelligence artificielle, avec Vainu, une start-up finlandaise et qui, ben, comme toutes les entreprises qui utilisent l'apprentissage machine, a besoin de beaucoup de données bien organisées, bien étiquetées, pour servir de masse d'exemples à ses algos. Bon, d'ailleurs, eux, ils font du langage naturel, entre autres, hein, et bon, apparemment, il est simple d'employer des milliers de petites mains pour faire des micro-travaux micro-payés sur Amazon Mechanical Turk. Selon les langues, il y a plus ou moins de personnes compétentes pour le faire. Et apparemment, au finnois, ben, c'est plus dur, on s'en doute, se serait douté. Et donc, ils ont une idée absolument géniale, les prisons. Ben oui, parce que les prisonniers finnois, ben, ils parlent assez souvent finnois, et puis ben, ils sont nombreux et ils ont beaucoup de temps libre. Alors, la boîte, elle est entrée directement en contact avec le gouvernement pour mettre au point une sorte de mechanical dollar. Alors, c'est payé pareil que sur Amazon, notez bien. Hein. Donc, c'est une main-d'œuvre captive, si j'ose dire, qui pose question, bien entendu, puisque bon, pour le moment, et pour le futur proche, au minimum, les IA créent effectivement beaucoup d'emplois, sauf que c'est des emplois encore plus nuls que ce en quoi, que ceux qui remplacent, en fait. L'anthropologue Mary Elgray, d'ailleurs, appelle ça du travail fantôme, parce qu'en plus, c'est un travail qui est censé être invisible. Voilà, donc la relation entre l'automatisation et le travail, c'est toujours assez complexe, hein. C'est peut-être pas forcément ce à quoi on s'attendait, mais c'est pas forcément plus réjouissant pour autant, je trouve, n'est-ce pas, Pod?
Tout à fait, et puis ça pose plein de questions éthiques, comme comment on considère le travail de condamné. Est-ce que finalement, vu qu'ils sont dans un système qui est public et qu'ils purgent une peine pour avoir troublé un ordre public, est-ce qu'ils ne devraient pas s'atteler à des tâches qui ont un intérêt public. Bon, évidemment, je suis biaisé, vous l'avez compris, j'ai une opinion sur le sujet, mais voilà, je pense que il y a des questions d'éthique à soulever. Tu as parlé aussi de la rémunération. Y a pas mal de choses qui font un petit peu réagir sur cette news. Bon, après, il n'y a pas mort d'homme non plus, mais c'est vrai que la news, finalement, on pourrait la formuler genre on a mis des gens dans une cage et puis on leur a dit qu'ils étaient un logiciel à partir de maintenant. C'est pas très 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 réjouissant, quoi. Ça donne pas.
Non. Et puis comme tu l'avais déjà mentionné sans doute, enfin, c'est là on parle des prisonniers qui sont donc captifs quelque part, c'est vrai, mais donc il y a le côté symbolique aussi qui est quand même assez fort dans cette news. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'on dit voilà, être caissière, c'est pas forcément être un boulot très très épanouissant même. Voilà, c'est un boulot tout à fait respectable, mais c'est pas un boulot qui est intellectuellement très très motivant forcément tout le temps. C'est certain.
Cela dit, intellectuellement ou physiquement.
Intellectuellement et physiquement, c'est difficile physiquement aussi, tout à fait. Et donc on va se dire, bon voilà, c'est vrai que automatiser ce genre de truc, par exemple, avec X ou Y technologie, c'est pas forcément quelque chose de mal en soi. Mais si c'est pour remplacer ces emplois par des emplois qui consistent à étiqueter toutes les images où il y a des chats, où il y a tel arbre, ou enfin, je veux dire, c'est.
C'est bon. Certain que là, on est aux antipodes de l'intelligence artificielle libère l'humain du travail.
Oui, parce que ça peut durer encore un petit moment, parce qu'on pourra se dire, effectivement, une fois que les algorithmes seront entraînés, il n'y aura plus besoin des gens qui étiquettent les trucs. C'est pas faux. Cela dit, il y aura d'autres algorithmes qui auront peut-être d'autres besoins, et c'est vrai que ça peut durer des années et des années pendant lesquelles, il peut y avoir des boulots qui sont absolument catastrophiques, hein, en termes de... encore plus abrutissants que les trucs qui sont automatisés. Bon, question difficile. C'est toujours compliqué de parler de ce genre de sujet. Le matériel aussi, hein, parfois, peut se révéler indiscret, et même jusqu'après sa mort, par exemple, les Tesla. Et oui, parce que les voitures du futur, finalement, ce seront des téléphones comme les autres. Bardées de capteurs, de caméras, hein, elles en savent d'autant plus sur vous, finalement, et comme pour un téléphone, il ne faudra pas oublier de reformater sa voiture, hein, au minimum, avant de s'en séparer. Il y a des chercheurs qui ont réussi à récupérer des carcasses de Tesla qui étaient pleines d'infos non chiffrées, comme par exemple la vidéo du crash, c'était une voiture qui était récupérée à la casse, des informations de navigation, sa position, adresse résidentielle, etc., des informations sur l'emploi du temps de l'ex-propriétaire, et tout ça via l'appairage de la voiture avec son téléphone, et aussi l'historique des appels, etc. Alors, il y a un mec qui s'appelle Green V Only, c'est un hacker gentil qui traque les failles de sécurité sur les Tesla. C'est un fan, il en connaît une lui-même, et il a récupéré des carcasses de modèles X, S et 3, et qui montre bien en fait le paradoxe de Tesla, puisque Tesla garde jalousement les infos générées par ses voitures. Par contre, il laisse non chiffrés des pans entiers d'informations qui concernent leur propriétaire. Alors, cela dit, le problème ne se limite pas du tout à Tesla, hein. Il y a plein d'autres voitures qui offrent des fonctionnalités d'appairage avec le téléphone, et globalement, les véhicules vont devenir de plus en plus des ordinateurs sur roues, hein. Donc il est important, je pense, de se préoccuper des infos qui peuvent vous échapper si la voiture est volée, si elle a un accident, ou même si vous la prêtez, hein, on ne sait pas trop. Évidemment, c'est des trucs qu'il faut garder à l'esprit, même si... personnellement, je ne suis pas concerné parce que je n'ai pas de voiture. Je pense, toi non plus, que tu n'as pas ce type de problème.
Non, je n'ai même pas le permis, donc la question est réglée. Ceci dit, la question peut être élargie à tout type d'appareil. C'est vrai qu'on y pense souvent quand il s'agit du compte Facebook. Par exemple, il y a même une fonction de qu'est-ce qui se passe sur mon compte si je décède. Il y a une fonction de ce type-là aussi sur les services Google. Les gens pensent assez facilement à qu'est-ce qui doit être fait de leur ordinateur. On ne pense pas forcément à des objets qui pourraient être une console de jeux vidéo, une voiture, une télé intelligente ou tout autre système un petit peu complexe et qui garde pas mal d'informations. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose auquel on pense quand on se dit qu'est-ce qui va advenir lorsque soit je me sépare du matériel, soit le matériel se sépare de moi, entre guillemets, si faire un peu d'humour noir sur les accidents de voiture. Non, que faire, pose, comment organiser ça, c'est compliqué. Hein.
En fait, là, un des problèmes centraux de cette news, c'est que les données n'étaient pas chiffrées. Et que du coup, lorsque tu as un accident, parce qu'en fait, le principal problème, il vient aussi du fait que tu peux perdre le contrôle de l'appareil. Donc, par exemple, ton téléphone tombe en panne, tu perds le contrôle de ton appareil avant de pouvoir virer tes données. Et donc, si quelqu'un le récupère et est assez malin pour le réparer, il peut récupérer l'intégralité de tes données facile.
Bien sûr.
Si c'est pas chiffré. Et là, c'est exactement ce qui se passe avec les Tesla. On a perdu le contrôle du véhicule, la voiture s'est retrouvée à la casse, donc de toute façon, t'as pas eu l'opportunité de virer tes données. Et c'est là que le chiffrement devient cardinal, évidemment. Et c'est pour les téléphones, c'est pareil. Hein. Si vous perdez le contrôle de votre téléphone et que vous avez chiffré la partition, bah, de toute façon, voilà, c'est terminé.
Mais et en même temps. Dans le cas d'un accident ou d'un sabotage ou de tout autre genre de choses, on aimerait quand même que les services de police puissent accéder à des données et qu'elles n'aient pas forcément besoin d'une entreprise privée pour ça. Enfin, tu vois, la question de est-ce que je chiffre les dernières données de 10 minutes avant un accident, par exemple. Moi, j'aurais tendance à dire non, parce que si le fabricant de voiture, par exemple, fait faillite et s'en va avec les clés comme Mr. Bitcoin de il y a quelques semaines, qu'est-ce qu'on fait, quoi?
Oui, c'est vrai que c'est très intéressant, puisqu'en fait, tu te dis, est-ce qu'il devrait y avoir une sorte de boîte noire pour les voitures? Qui soit public, quoi. C'est intéressant parce qu'effectivement, on peut architecturer peut-être aussi les appareils comme ça avec des choses privées qui ne sont pas d'un intérêt pour une enquête, quoi. Et puis le reste, mais là encore, la frontière est difficile à placer. Donc oui, tu as raison, c'est peut-être plus compliqué que ce que je dis. C'est vrai que le chiffrement complet peut avoir peut révéler d'autres problèmes, ouais. Eh oui, bon, écoute, on parle de voiture à la casse, c'est triste, mais rien n'est éternel, hein, et certainement pas la technologie, hein, qui est souvent quand même mieux qualifiée par l'adjectif éphémère que par l'adjectif durable, hein, malheureusement, et parce que souvent, après 2 ou 3 ans de bons et loyaux services, ben, ça commence à sentir la fin pour plein d'appareils, hein, et pour plein de raisons, d'ailleurs, c'est évidemment un problème, et donc on aborde du coup cette nouvelle section qui parle du droit à réparer, et on commence avec Apple qui justement se veut être un acteur modèle en la matière, et utilise un maximum de matériaux recyclés. Pourtant, on peut quand même lui reprocher certaines choses, et pas juste l'annulation de son PowerMat, hein, qui a été annulé cette semaine, à cause, c'est peut-être inédit, hein, pour un produit qui a été annoncé officiellement, à cause d'un problème technique. Alors, rappelons que c'est un tapis magnétique, hein, c'est un tapis magique, mais il ne vole pas. Il était juste censé recharger 3 appareils en simultané, la montre, le téléphone et les AirPods. Alors le problème, c'est que ça nécessite du coup 3 bobines et que l'ensemble chauffait trop. Alors comme il s'agissait pas de produire une plaque chauffante mais bien un chargeur, ben les ingénieurs ont fini par jeter l'éponge, étonnamment. Alors c'est vrai que la recharge sans fil, moi je trouve ça plutôt classe et pratique, hein, mais c'est vrai que je suis pas sûr qu'elle soit que le rendement soit aussi bon qu'avec un simple fil. Et d'ailleurs il me semble que toi, Pod, tu étais sceptique aussi là-dessus.
Oui, le rendement est assez mauvais. Hein. Je pense que il me semble que dans le meilleur des cas, on fournit 70% de l'énergie qui est consommée. Et ça, c'est vraiment avec des appareils assez chers. Il me semble aussi que parmi les difficultés de conception de la station de recharge d'Apple, ils voulaient qu'on puisse poser les terminaux un peu n'importe comment sur le tapis, ce qui entraîne un certain nombre de complications, sachant que, comme tu l'as dit, il y a 3 bobines. Alors, quand on le pose au milieu, d'où est-ce que ça vient, etc., il y avait un certain nombre de choses. Je suis pas sûr qu'il soit pas arrivé à solutionner. Je pense, à mon avis, qu'ils avaient deux choix, soit le faire très très cher, ce qui
n'a pas été un problème pour Apple.
Ouais, mais bon, je sais pas, $300 pour charger son iPhone mal et lentement, c'est quand même bon. Peut-être qu'ils n'étaient pas prêts à faire ce pas. Et sinon, un ventilateur pour charger ses appareils, ça fout mal aussi. Hein, donc effectivement, c'est peut-être mieux qu'il ne l'ait pas sorti. C'est dommage pour eux que le marketing l'ait annoncé et vendu bien avant même qu'il soit fini d'être conçu.
Ouais, c'est certainement, oui. Et donc, ben, on parle d'AirPods et ben, Apple en a sorti une nouvelle paire. Hein, et cette semaine, iFixit s'est empressé de les démonter. Enfin bon, ils les ont essayé de les démonter parce que, ben, comme les premières générations, les AirPods se démontent pas et leur batterie ne se change pas. Et ils semblent avoir été conçus pour être renouvelés quand leur autonomie commence à faiblir. Ce qui apparemment arrive assez vite. Il y a un article de The Atlantic qui recense pas mal de témoignages et qui indique que justement, au bout de 2 ans d'usage quotidien, ben, les écouteurs peuvent devenir à la limite de l'utilisable. C'est quand même un peu choquant pour un appareil qui coûte 200 balles et dont la fonction quand même c'est une fonction bien définie qui change pas des masses hein, puisque c'est quand même un casque. Bon, bien sûr les batteries se dégradent un peu à chaque cycle de recharge hein, c'est inévitable. Mais du coup les constructeurs bon, Apple sert d'exemple ici mais évidemment c'est une tendance générale de tout le monde en fait hein. J'ai moi-même j'en avais parlé hein, des petits écouteurs Bluetooth qui font la même chose que ceux d'Apple globalement enfin dire, très très grossièrement et qui probablement auront les mêmes problèmes. Et c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à pas trop y penser. Et voilà, quant au constructeur, bah, de toute façon, il faut vendre des nouveaux modèles tous les ans. Donc c'est vrai que c'est pas forcément la préoccupation principale. Et donc voilà, batterie inamovible, hein, machine collée, impossible à ouvrir, à réparer. C'est contre ça que de nombreuses voix s'élèvent en ce moment. Il y a 20 États américains, dont la Californie, qui étudient en ce moment même le projet d'une loi donnant le droit de réparer. Et Elizabeth Warren, hein, candidate à la primaire démocrate, hein, qu'on a déjà mentionné ici, ben, est aussi un fervent défenseur, non seulement pour la tech, mais aussi pour l'agriculture. Il y a là d'ailleurs beaucoup de fermiers derrière elle, parce que le problème, ben, il touche aussi les tracteurs. Voilà, le fabricant historique, comme John Deere, les fabricants, je pense qu'il y en a d'autres, mais bon, John Deere était un des exemples les plus parlants. Ben, ils interdisent désormais toute réparation des engins hors de leur propre réseau. Et ben oui, décidément, le tracteur, c'est un iPhone comme les autres. Alors, je pense qu'on est tous plutôt pour le droit de réparer ici, non, je suppose, Bod.
Ouais, puis en ce qui concerne plus particulièrement les fermiers, normalement, une bonne action collective devrait leur donner raison, hein, puisque ça paraît borderline anticonstitutionnel pour les États-Unis. Mais c'est pas la première fois qu'on en parle, hein, puisque dans un très, très, très vieux Tech Café, on avait abordé le sujet, il me semble, de ces fermiers qui flashent le firmware de leur tracteur avec un firmware ukrainien, tout simplement, parce que le firmware avec lequel le tracteur est shippé, il y a plus ou moins des DLC, il manque des bouts de carte
C'est fabuleux.
GPS, et c'est compliqué à opérer, alors qu'avec le firmware ukrainien, tout fonctionne très bien. J'essaierai de retrouver l'épisode, ou tout au moins l'article qui parle de ces fermiers hackers du 21e siècle. Décidément, il y a des gens qui vivent dans le futur. Pour le reste, sur le droit à la réparabilité, on est toujours dans le même débat. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Est-ce qu'il y a une obsolescence programmée? Est-ce que c'est juste l'usure? Est-ce que les choses durent moins longtemps ou est-ce qu'on a un biais du survivant? Un sujet incroyablement complexe. Je pense qu'Elizabeth Warren surfe pas mal sur la vague parce que c'est quand même quelque chose dont elle n'a jamais parlé auparavant, alors que pas mal d'associations se saisissent de ces sujets. En tous les cas, je pense que moi, ce qui me chagrine, c'est que je comprends bien la difficulté à réparer des miracles de miniaturisation. Je pense que certains appareils, par contre, devraient continuer à pouvoir être réparé très facilement, et je pense en particulier au laptop, aux télévisions ou à ce genre de choses. Et force est de constater qu'aujourd'hui, on est vraiment loin de l'état de réparabilité dans lequel on était, ne serait-ce qu'il y a 15 ans, à une époque où les technologies n'étaient pas fondamentalement différentes d'aujourd'hui.
Oui, absolument. D'ailleurs, Apple fait du lobbying contre ses projets depuis longtemps. Hein. Apple, c'est un des pires contrôle freaks de la tech, hein, je pense. Bon, Microsoft aussi est contre, hein, contre l'idée. Hein, et la manière d'ailleurs dont il conçoit ses surfaces le montre bien que c'est pas une préoccupation majeure. Parce que comme tu l'as dit, hein, une surface, je pense que c'est plus ou moins indémontable pour le commun des mortels. C'est quasiment impossible. Et il y a beaucoup aujourd'hui de téléphones mobiles qui sont d'une pièce ou qui sont collés de tous les côtés. Enfin, c'est une catastrophe, quoi. Bon, leur argument, l'argument global qu'utilisent les gens qui sont contre, c'est la sécurité, bien sûr. Parce que bon, penses-tu, si on pouvait tout démonter librement, si la documentation et les outils diagnostiques étaient publics, ben, ça serait la fête pour tous les hackers et les autres pirates tout méchants. Donc non, il vaut mieux que nos clients soient captifs, parce que c'est pour leur bien. Voilà, faisons des machines qui s'auto-détruisent si tu utilises un tournevis non officiel, et comme ça, tout ira bien. Bon. Pourtant, il y a une fuite de documents qui révèle l'existence chez Apple, justement, d'un programme destiné uniquement à une sélection triée sur le volet hein, de boîtes qui pourraient devenir des réparateurs agréés. Et au programme, en fait, il y a quoi ? Ben, il y a la doc, il y a des outils, des pièces détachées, en fait, il y a tout pour souscrire au droit de réparer. Mais évidemment, il faudra que ça devienne accessible au grand public. Et évidemment, on espère aussi que ce sera le cas à l'avenir. Bon, ben, je ne sais pas si tu avais vu passer ça, mais c'est vrai que il n'y a pas de raison forcément technique à ce qu'un réparateur lambda ne puisse pas changer un écran d'iPhone, par exemple, tu vois.
Ah non, on est clairement sur du contrôle économique et des logiques de pousser à la consommation, enfin, clairement.
Oui, et puis bon, là, on parle d'Apple en l'occurrence, parce que c'est vrai que ce programme de réparateur agréé le concerne, mais la plupart des gros constructeurs font à peu près comme ça. Hein. Essayer de réparer un Samsung, à mon avis, c'est pas beaucoup plus simple. Bon, donc c'est vraiment très très dommage. Donc, parmi les préoccupations écologiques, évidemment, celle de l'énergie, bah, c'est certainement une des plus importantes. Hein, et donc, il y a toute une série de problématiques avec chaque source d'énergie. Bon, en particulier avec le solaire, on a le problème de l'irrégularité. Hein, ça amène aussi au problème du stockage de l'énergie. Parce qu'on a vu que les batteries, c'est bien, mais bon, voilà, c'est plutôt efficace, hein, faut le dire. Mais ça pose des problèmes en termes de ressources, de déchets, etc. Et puis bon, faut se souvenir aussi que le pétrole, bah, c'est vraiment super parce que c'est pratique à stocker, c'est pratique à transporter. Et ça stocke énormément d'énergie dans peu de volume. Un litre d'essence, bah, ça permet quand même de transporter une tonne de métal entre 10 et 20 km, hein, grosso modo. Donc faire mieux, c'est quand même pas évident. Parce que cette semaine, il y a eu des gros titres sur la possibilité de mettre le soleil en bouteille, ouais, je cite, rien que ça. Alors, c'est une équipe de recherche de chercheurs espagnols et suédois qui ont réussi à produire un liquide qui stocke l'énergie solaire directement. Bon, en gros, vous le mettez au soleil, il stocke l'énergie, et plus tard, bah, via un catalyseur, quoi, il vous la rend en chauffant. Alors, c'est magique. Et effectivement, c'est une piste qui est très intéressante. Alors, comment ça marche ? Pour simplifier, le liquide est constitué de molécules qui, quand elles se prennent des photons dans la gueule, changent de forme. Ce sont les mêmes molécules, et les atomes restent les mêmes. Hein. C'est une réaction de basse énergie, donc les transformations ne sont pas énormes, on va dire. Donc, les molécules peuvent avoir plusieurs formes en général, hein, des plusieurs formes équivalentes. Voilà. C'est-à-dire, grosso modo, que certains groupes d'atomes peuvent s'attacher à divers endroits, ou qu'il y a des liaisons fortes qui peuvent être à un endroit ou à un autre, voilà, entre des deux atomes ou deux autres. Mais chimiquement, ça ne change rien du tout. Par contre, physiquement, les molécules ont une forme un petit peu différente. On appelle ça les isomères, pour faire classe. Donc de iso, même, et mère, partie. Donc c'est-à-dire même partie, donc les molécules qui ont les mêmes parties. Et bon, il peut être possible de faire passer une molécule d'une forme à une autre, en l'aidant un petit peu, comme par exemple en lui injectant un peu d'énergie, c'est ce qu'on appelle une isomérisation. Et ce que les chercheurs ont fait, c'est qu'ils ont trouvé un liquide qui se fait isomériser la gueule au soleil. Alors, c'est-à-dire avec les photons qu'on trouve dans la lumière du jour, hein, ce qui n'est pas une mince affaire en fait. Ensuite, bah, il a fallu trouver un moyen de forcer la réaction inverse pour relarguer l'énergie. Bon, il emploie un catalyseur qui permet de le faire. Et enfin, bah, il faut que le liquide stocke l'énergie avec une densité qui soit pas trop ridicule, qui ait suffisamment d'énergie par litre. Et bah, pour la première fois, toutes ces conditions sont réunies, et donc c'est quand même une belle performance. Alors, malheureusement, il ne faut pas non plus exagérer la portée pratique de la découverte pour le moment, puisqu'en l'état, le liquide stocke 0,4 mégajoules par kilo, ce qui est très honorable, mais bon, c'est quand même 100 fois moins que l'essence, puisque l'essence est à peu près donc 47 mégajoules par kilo, ou 34 mégajoules par litre. Et c'est quand même bien, parce que c'est deux fois moins que les batteries au lithium-ion, donc c'est quand même vraiment encourageant. Alors, j'ai pu lire que le liquide pouvait stocker indéfiniment l'énergie, c'est pas vrai, hein. Au bout de 30 jours, la moitié s'est envolée. En plus, le liquide se dégrade, mais il se dégrade très lentement, 0,14% par cycle, donc ça peut paraître faible, mais au bout de son cycle, quand même 13% du liquide qui est déjà parti. Alors bon, le composant en question, ça semble être un hydrocarbure. Bon, n'étant pas chimiste, je ne pourrais pas vous dire à quel point il est facile à fabriquer, à quel point il est coûteux, j'en ai aucune idée. Donc bon, il reste des limitations, mais c'est quand même encourageant, et c'est une percée hein, par rapport aux recherches dans le domaine qui datent des années 80. Donc c'est prometteur, mais c'est pas encore aussi miraculeux que j'ai pu le lire ici et là, mais enfin, je pense que c'est quand même à suivre. Et toi, pote, t'as une source d'énergie verte favorite ?
Je trouve ça bluffant, cette découverte. Je trouve ça assez impressionnant qu'on puisse finalement changer de paradigme. Hein, puisque les batteries fonctionnent sur des réactions chimiques, là on est vraiment sur des réactions physiques. j'avais pas du tout vu passer cette news et ouais, je suis vraiment bluffé. Moi, ma source d'énergie préférée, je sais pas si j'en ai une, je pense que je fais partie des gens qui pensent que il faut éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier. Je dis ça, je vis dans un pays où 100% de l'énergie est hydroélectrique, ce qui est très cool, c'est une énergie renouvelable, mais c'est vrai que du coup, la production d'électricité est entièrement centralisée et en cas de problème, c'est un peu plus difficile pour rétablir le courant. Je pense que toutes les sources sont bien avec parcimonie. Voilà,
oui, c'est vrai que... Oui, vous avez la chance d'avoir donc une source qui est vraiment propre, hein, plus ou moins, enfin, on va dire, d'énergie, comparé aux autres. Comparé à nous en France, où on est quand même beaucoup sur, enfin, même énormément sur du nucléaire, qui est propre en termes carboniques, mais qui n'est pas propre en termes de tout le reste, je pense, plus ou moins. Donc c'est quand même vraiment, vraiment pas mal. Après, je pense que ta source d'énergie favorite, c'est peut-être le muscle, non ? Je sais que tu fais beaucoup de vélo.
Oui, évidemment, c'est vrai, tout à fait.
Et je pense que ça, c'est une véritable énergie propre. Écoute, si on peut peut-être passer donc à la rubrique en bref. Je pense que ça va clore notre rubrique écologie pour cette fois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la rubrique en bref ? On continue avec l'électricité et le stockage, puisque... cette semaine, Kintetsu Railway, donc c'est à Osaka au Japon, a installé 42 Power Pack Tesla comme backup pour ses lignes de train. Donc c'est assez impressionnant puisque ça peut quand même délivrer quelque chose comme 4,2 MW en une fois, ou alors 7 MWh. Donc c'est assez énorme. Ça peut, alors évidemment, du point de vue d'un train électrique, c'est pas forcément aussi gros que ça, puisque ça peut alimenter un petit peu moins d'une demi-heure. Un train en cas d'urgence, mais ça peut aussi fonctionner en cas de non-urgence, hein, juste parce que apparemment il est possible de stocker l'énergie pour des variations saisonnières de tarifs. C'est-à-dire qu'apparemment au Japon, lorsqu'il fait très très chaud par exemple et que les centrales sont surchargées par le nombre colossal de climatisation qu'il y a au Japon, apparemment c'est plus cher et donc ça peut, disons, prendre l'énergie un petit peu, en tout cas en partie, dans les power packs. Ça permet d'alléger ce qu'on prend dans la grille et aussi d'avoir des tarifs un petit peu moins importants, donc c'est quand même intéressant pour Kintetsu. Et apparemment en hiver, ils prennent directement de la grille. Donc c'est quand même une énorme installation, c'est la quatrième plus grosse de la région Asie-Pacifique, dit Tesla.
Et on est en plein dans le sujet de la décentralisation de la production et ou de la distribution électrique.
Exactement, c'est effectivement, parce que là on a un petit point où on peut stocker de l'énergie et le redistribuer, donc ça peut devenir une source d'énergie. C'est intéressant, on a déjà parlé ici des problèmes quand même que pouvait amener à la multiplication énorme comme ça du nombre de batteries et de la puissance des batteries. C'est toujours pareil, hein, s'il y a des filières de recyclage, ça peut être intéressant quand même à voir. Un truc dont on avait parlé aussi il n'y a pas très très longtemps de ça, c'était les constellations de satellites, alors les méga constellations de satellites, puisque donc, on avait dit que SpaceX était prêt à envoyer, je ne sais pas, 12 000 satellites dans l'espace pour couvrir la totalité du monde avec un internet ultra rapide, mais qui venait de l'espace. Il y a d'autres trucs comme ça, je crois qu'il y a une start-up qui s'appelle OneWeb, qui veut mettre 900 petits satellites aussi comme ça en orbite. Donc on a en tout cas on aura peut-être dans la décennie à venir des grosses constellations, et ces grosses constellations, le problème c'est qu'elles vont devoir se débrouiller avec les débris qu'il y a malheureusement en orbite basse là où on va les mettre en majeure partie, et ces débris il y en a de plus en plus. Il y en a d'autant plus d'ailleurs que récemment l'Inde a tiré sur de ses propres satellites, l'a détruit, créant au passage des centaines de débris qui se baladent désormais en orbite basse. Bon, il y en a une partie qui vont retomber sur Terre parce qu'ils sont suffisamment bas. Malheureusement, quand il y a une explosion, évidemment, il y en a qui partent vers le haut, et donc eux, ils vont gagner de l'altitude, et donc ils vont rester là pendant des siècles. Alors c'est évidemment un gros souci. Et il y a Glenn Peterson, un chercheur de l'Aerospace Corporation, qui a essayé de calculer à quel point ce serait problématique si on avait des constellations de plusieurs dizaines, enfin plusieurs milliers en tout cas de satellites, et il a dit que globalement S'il y avait un système avec une précision suffisante, ça générerait près de 67 000 alertes collisions par an avec des grosses trucs. Donc forcément, c'est un problème. Et ça va être la foire parce que, bien entendu, pour l'instant, chaque pays fait un petit peu ce qu'il veut avec l'espace et ça peut poser des soucis à l'image de l'Inde. Donc voilà, nous, ça nous avait fait un petit peu rêver sur le coup ces histoires d'Internet qui venaient de l'espace. Mais on se rend compte que concrètement, ça pose des problèmes qui peuvent être assez complexes. Et est-ce que vraiment c'est la peine d'envoyer des trucs dans l'espace pour nous donner un Internet super rapide? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Pod?
Je suis assez partagé. J'ai grandi en apprenant cette notion de pollution de l'espace et de débris. Et puis, assez récemment, j'ai eu des sons de cloche assez différents qui expliquaient qu'en réalité, il y avait relativement peu de chances d'avoir des collisions. Que, par exemple, dans le cas de la destruction de satellites de l'Inde, c'est soit éjecté en dehors de l'orbite terrestre, soit ça retombe sur Terre, mais que les chances que ça reste pris en orbite sont assez nulles. Et puis c'est vrai que quand la Chine a fait la même manœuvre, personne n'a rien dit sur les débris. Donc je sais pas, je suis pas spécialiste de la question et j'avoue que je n'ai pas d'avis pour le moment. Je suis très preneur, en tout cas, si parmi les auditeurs, il y a des gens dont c'est le sujet, je pense qu'on est très preneur d'un avis d'expert en la matière.
Oui, pourtant, il y a des systèmes comme ça qui localisent les débris et qui, bon, pour l'instant, c'est des débris de 10 cm qui sont capables de suivre. Il paraît que si... Oui, ça suit à peu près 20 000 à l'heure actuelle. S'ils suivaient les débris de 2 cm, par contre, ça monterait à 200 000. Donc apparemment, il y a quand même un nombre de débris assez conséquent. Et bon, l'article que je relais a l'air de dire que la probabilité de collision est... alors, c'est toujours ouais. Des probabilités de collision, bien entendu, ce n'est pas des collisions qui vont forcément se passer. Mais, en fait, il y a quand même des probabilités de collision de 10% ou 20%, par exemple, ce qui est quand même significatif si tu dois perdre un satellite. Apparemment, ça peut arriver très souvent. Effectivement, on n'est pas spécialiste en astronautique, donc tu as raison, on est preneur de tous les avis. On va redescendre sur Terre avec Boston Dynamics, hein, qui visait parce que bon, nous on aime bien les robots Boston Dynamics, ils sont rigolos. Et là, il y a Handle. Donc Handle, c'est le nom d'un robot dont on a déjà parlé plein de fois, mais qui de toute façon change tout le temps de forme et de fonction. Et qui est donc un robot bipède, sauf que c'est pas vraiment des pattes, puisqu'il a deux espèces de roues. On dirait une sorte d'autruche sur roues, donc c'est quand même assez rigolo. Et donc à la place du bec, et cette autruche, elle a une espèce de grosse ventouse qui lui permet de porter des colis. Et donc Handle fait du boulot plutôt pas mal dans un entrepôt lambda, on va dire. Ça pourrait être un entrepôt Amazon. Hein. Et voilà, donc il prend des colis, il les met à un endroit, et puis il les met à un autre endroit, tout ça en parfaite autonomie. Ça a l'air de marcher plutôt bien. Le robot peut soulever environ 15 kilos pour l'instant, donc tout seul. Et donc il fonctionne comme ça, tranquillou. Voilà, je serais employé dans un... Enfin, je serais manutentionnaire Amazon, ça m'inquiéterait beaucoup, je sais pas trop. Tu avais vu cette nouvelle version de Handle, toi?
Ouais, moi je suis toujours aussi impressionné par ces machines et couplé la versatilité du modèle bipède. Couplé à de la de un peu d'intelligence artificielle et du logiciel de qualité, ça peut quand même faire des choses assez folles.
Oui, alors c'est très impressionnant, d'autant plus que nous on suit Boston Dynamics depuis longtemps en fait, hein, depuis qu'on a eu les premiers dogs, les premiers gros chiens quadrupèdes avec un gros câble qui leur courait derrière. Là, on a maintenant des choses qui sont beaucoup plus légères, beaucoup plus graciles, qui sont beaucoup plus agiles aussi, totalement autonomes et qui sont sans fil. Et en plus, pour couronner le tout, Boston Dynamics vient de faire l'acquisition d'une nouvelle startup, d'une autre startup qui est spécialisée dans la vision 3D et ça leur permettra probablement de gagner quelques années en recherche. Pour améliorer encore la précision et la prise de décision de leur robot. Donc c'est vraiment, enfin, c'est extrêmement prometteur. Honnêtement, avoir Handle et les autres robots, enfin, on avait déjà parlé d'un petit robot qui était capable de se balader dans un chantier en toute autonomie aussi. Voilà, avoir ces trucs-là, on se dit qu'ils pourraient effectivement passer au boulot, disons, dans 2 ou 3 ans sans aucun problème, quoi. Alors, ce qui va peut-être arriver aussi dans 2 ou 3 ans, on ne sait pas trop avec des problèmes ou pas, c'est peut-être les drones autonomes. Parce que, évidemment, on se doute que l'Air Force imagine déjà ce genre de truc. Ils ont un nom, alors le programme a un nom qui s'appelle Skyborg. Appréciez le jeu de mots. Skyborg, ça serait pour 2023. Et le but, ce serait de fabriquer des drones autonomes. Alors, des drones autonomes, mais je veux dire, qui seraient quand même pilotés, mais pilotés par n'importe qui. C'est-à-dire qu'au lieu de piloter directement l'avion, il suffirait de lui dire bah, va là, c'est comme un point and click. Tu vas là, tu prends cette photo, ensuite tu reviens, tu passes par là et tu reviens. Et bon, le truc fait. Voilà, il est suffisamment intelligent pour faire tout seul. Alors, ce qui est assez rigolo avec Skyborg, c'est qu'il y a aussi une version Assistana, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle pourrait être couplée à un pilote humain, donc atterrir dans un véritable avion de chasse, et qu'il aurait globalement la même fonction que R2-D2, et là, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est le mec qui a fait la présentation, qui a utilisé la métaphore Star Wars, ce serait le R2-D2 de l'appareil, c'est-à-dire qu'il serait capable de donner, d'assimiler et de donner des informations tactiques au pilote, éventuellement de prendre le relais ou d'assister le pilotage. Donc voilà, c'est vraiment très futuriste, probablement pas hors de portée, inquiétant peut-être, je sais pas trop, en tous les cas, sans doute inévitable. Ça te fait rêver, toi, Paul, d'avoir des R2-D2 comme ça dans les prochains avions américains ?
Bah, vendu comme ça, effectivement, ça fait rêver. Maintenant, quand tu le vends comme la façon initiale dont tu as présenté la nouvelle, c'est tout de suite un petit peu moins sexy, hein, mais ça reste que c'est un sujet assez important dans la mesure où on en a parlé là aussi dans les précédents épisodes de Tech Café, hein, qu'on avait rappelé que les pilotes qui opéraient des drones, et là on parle plus de missions offensives, hein, mais bon, les Skyborg, ils en auront un jour aussi, qu'ils souffraient souvent de problèmes psychologiques, hein, puisque le fait de ne pas être sur le théâtre d'opération, hein, et donc de rentrer chez soi le soir, retrouver une vie normale quand on vient de livrer une ou plusieurs missions de combat dans la journée, c'est quelque chose d'assez difficile à gérer psychologiquement. L'étape suivante pour l'armée, c'est forcément de petit à petit retirer le facteur humain qui est si difficile à gérer. Et puis évidemment, hein, il y a des questions économiques, hein, c'est beaucoup plus scalable s'il n'y a pas besoin de former des pilotes, hein, ça coûte cher de former un pilote.
Oui, parce que bon, c'est vrai qu'on a déjà parlé, voilà, de ces initiatives contre les armes autonomes, etc. C'est dangereux, c'est extrêmement inquiétant, on est parfaitement d'accord avec ça. Mais on avait aussi exprimé nos doutes sur le fait que ça puisse juste aboutir, quoi. Est-ce que c'est pas juste inévitable? Parce que, en gros, tout le monde le recherche et personne ne va vouloir s'asseoir sur l'avantage que ça serait de l'avoir ou le désavantage stratégique énorme que ça serait de ne pas l'avoir. Du coup, effectivement, bon, bah, comme tu le dis, pour l'instant, les Skyborg, bon, ils vont pas flinguer des gens tout seuls. Mais bon, dans la décennie qui suit, bon, voilà. Il y a gros à parier que ce soit le cas. Alors, on va parler de choses un petit peu plus légères quand même, parce que bon, voilà, ça va parler de la Sega Genesis 2, c'est-à-dire de la Mega Drive chez nous, cette Mega Drive qui, donc, aura droit à sa version mini, sortie par Sega lui-même, avec 40 jeux, 40 jeux différents selon les territoires. Bon, évidemment, il y aura les classiques, il y aura Sonic the Hedgehog, Shining Force, Gunstar Hero, Comic Zone, Space Harrier, Puyo Puyo, etc., etc. Ce sera une machine qui sera pas très très chère, en tout cas au Japon, puisque au Japon, une version avec un seul contrôleur, ce sera 60$ et 80 avec deux contrôleurs. Bon, voilà, c'est une petite machine qui peut évidemment avoir ses fans, hein, ces trucs. Moi, je suis pas franchement super client des micro-consoles comme ça, des rééditions des consoles. Je sais pas si toi, ça te tombe. Je sais pas même si tu en as. Est-ce que tu as une...
Non, et puis j'allais justement te poser la question, toi en tant qu'expert, pourquoi est-ce que on part pas directement sur des vraies rééditions de la vraie console, et c'est-à-dire pas 40 jeux, hein, mais tout simplement on ressort le SDK du placard qui prend la poussière, on le donne aux éditeurs de jeux, et puis on a une vraie console où on peut utiliser bah, si possible les cartouches originales, si pas possible des rééditions, mais qu'on soit pas limité à un nombre fermé de jeux, et puis qu'on puisse même avoir des nouveaux jeux, parce que finalement Ces machines, elles sont bien sûr qu'elles sont moins puissantes que les consoles d'aujourd'hui, mais elles sont pas moins fun.
Ben, on peut faire des jeux très très fun et des jeux modernes sur Mega Drive, puisque ça existe, hein. Il y a des nouveaux jeux qui sortent sur Mega Drive ou sur NES ou sur Super NES. Alors évidemment, c'est compliqué à jouer pour plein de raisons. Et la première, c'est que bien entendu, ben, il faut refaire des cartouches. Alors il y a plusieurs manières de refaire des cartouches, hein. La plupart des temps, c'est en sacrifiant des anciennes cartouches sur lesquelles on met des EEPROM et qu'on flash à la demande, ou en faisant d'autres types de mécaniques avec, par exemple, des fausses cartouches dans lesquelles on met des cartes SD, ce genre de trucs. Mais tout ça existe. Effectivement, c'est complètement underground. Et c'est très dommage qu'il n'y ait pas la possibilité de faire ça à l'échelle. Après, je pense qu'il y a des raisons économiques et tout simplement à ça aussi. Parce que bon, qui va éditer un jeu Mega Drive aujourd'hui, c'est un peu difficile. Là, au niveau technique, c'est vrai que refaire une Mega Drive, ben, ça veut dire qu'il faut reproduire tous les composants. Et reproduire tous les composants, c'est juste pas vraiment possible, je pense. Il faudrait refaire des chaînes qui fassent tous les. Parce que bon, je suppose qu'on peut encore trouver des 68 000 pour là dans le cas de Mega Drive. Mais par contre, retrouver les puces Sega spécifiques de la console, ben, c'est pas possible. Il faudrait les reproduire. Et
Mais
donc, reproduire des. Oui.
est-ce qu'on pourrait pas mettre un ARM plus puissant et partir sur de l'émulation?
Oui, si, si. Alors voilà, c'est exactement ça. C'est ce que j'allais dire. Le plus simple, ce serait effectivement de partir sur un émulateur, mais un émulateur qui lit directement une vraie cartouche. Mais du coup, quel intérêt de faire une vraie cartouche si de toute façon, c'est pas un vrai hardware derrière, tu vois? Donc, tu pourrais même imaginer un autre format de cartouche. Mais du coup, tu as une nouvelle console, et donc, tu vois, tu as une nouvelle console avec un nouveau hardware, des nouvelles cartouches, et tout ça, il faut le produire, et donc, en fait, c'est des chaînes de prod qui concernent, je sais pas combien de gens, mais bon, je suppose que, je sais pas si économiquement ce serait viable, quoi.
Effectivement.
Cela dit, si tu veux jouer sur une console moderne, sur une machine moderne, à des vieux jeux, il y a les Retron, par exemple. Les Retron, alors il y a les N5, N3, je crois. C'est des machines qui sont enfin, c'est des multi-machines, hein, mais on utilise des vraies cartouches, des cartouches à l'ancienne. On met des cartouches originales dedans. Et à l'intérieur, il y a ben, donc une sorte de simulateur, si tu veux, qui émule la Super NES, la NES, la Mega Drive, etc. Donc c'est possible, tu vois, ça existe, ce genre de machine.
Ben c'est cool à apprendre.
Ouais, vous pouvez regarder un Vectron, c'est relativement cher, mais bon, après, ça fait plusieurs consoles à la fois. Pour être plus moderne d'ailleurs, Valve va présenter son premier casque de réalité virtuelle, enfin son casque de réalité virtuelle. Alors, on n'espérait plus vraiment, ou peut-être que si, je sais pas. Enfin, tous les cas, moi, c'est vrai que j'espérais plus vraiment ça, parce qu'on avait l'impression que Valve se désintéressait un petit peu de la VR ces derniers temps, et bah, pas du tout. Il va sortir son propre casque. On n'en sait pas grand-chose, sauf qu'il va sortir apparemment, enfin, il sera disponible le 15 juin, manifestement, qu'il aura apparemment un champ de vision assez étendu, puisqu'il sera à 135 degrés. Donc, nettement plus que le PSVR ou même les Oculus et compagnie. Donc c'est quand même très intéressant de voir que bah oui, un acteur majeur quand même comme Valve se décide à sortir son propre casque. Bon, voilà, je trouve ça très encourageant. Par contre, j'ai pas énormément d'infos, donc je peux pas vous en dire beaucoup plus pour le moment. Donc la semaine dernière, on avait parlé d'un truc assez marrant. D'ailleurs, je voudrais t'en parler, je voudrais que tu me donnes ton avis. C'était, je ne sais pas si t'as écouté, peut-être pas, c'était tout simplement la possibilité d'avoir des tickets de cinéma gratuits en regardant des pubs. Alors, il fallait regarder 15-20 minutes de pub minimum, et ces 15-20
Comme
minutes de pub.
normalement, quoi, en fait.
Oui,
Pardon.
comme quand tu vas au cinéma, c'est exactement ça. Sauf que là, c'est avant d'aller au cinéma. Et surtout, c'est sur ton téléphone. Et ce qui était marrant, c'est que le système utilisait un suivi de regard, un système de eye tracking, pour vérifier que tu regardes bien les pubs. Et si tu les regardes pas, ben les pubs s'interrompent et tu n'accumules pas de points. Alors du coup, c'était intéressant parce que ça appelait immédiatement des souvenirs de Black Mirror. Donc bon, là cette semaine, c'est pas vraiment ça. Cette semaine, c'est des forfaits téléphoniques qui sont financé par la pub. Alors cette fois, c'est simple. Le principe, c'est le système d'exploitation Android lui-même est considéré comme une espèce de grosse application Android et vous affiche des bandeaux, des pubs interstitielles de temps en temps quand vous lancez une appli, etc. Et si vous voyez, si vous êtes exposé à suffisamment de pubs, parce qu'évidemment il y a un compteur, si vous êtes exposé à suffisamment de pubs, vous ne payez pas tout simplement votre abonnement. Et si vous ne vous regardez pas suffisamment de pubs, vous avez même des alertes qui vous disent regarde plus de pubs, sinon tu vas devoir payer. Et alors, pour le coup, le gars qui fait ça, qui veut faire ça, celui qui a fondé Moula Mobile, il fait ça avec les meilleures intentions, puisqu'en fait, il veut juste que les gens, même les plus défavorisés, puissent avoir un téléphone mobile. Donc, c'est pétri de bonnes intentions, mais c'est quand même exposer les gens les moins favorisés, les plus vulnérables, donc à des quantités de pubs encore plus importantes, et avec tout le ciblage qui va bien. Et donc, j'aimerais bien connaître ton opinion, toi, sur cette histoire à la fois de tickets de cinéma et de forfait mobile.
Est-ce que tu te souviens de ce fournisseur d'accès qui s'appelait Oreca, ou Eureka, je ne me rappelle plus bien, il me semble que c'est Oreca, en France. Donc c'était à l'époque des modems 28 et 56K. On payait souvent Internet en plus de la communication téléphonique avec le fournisseur d'accès. Et puis progressivement sont venus les forfaits qui incluaient X heures, pendant lesquelles on n'était pas facturé pour la communication téléphonique. Et puis il y a eu ce petit fournisseur d'accès qui s'appelait Oreca, il me semble, à vérifier.
Ouais, ou Oreca avec deux O peut-être.
Ouais, ah oui, peut-être. En tout cas, tu devais installer un logiciel qui te présentait une bannière publicitaire. Et en échange de quoi, tu avais 4 heures. Au début, c'était illimité, c'était gratuit entièrement. Puis progressivement, ils ont réduit à 4 heures par semaine. Et puis, à la fin, ils ont fait faillite. Là où je veux en venir, c'est que je pense que toutes ces initiatives de facturer des choses qui sont abordables, mais qui ont quand même un certain coût réel, à mon avis, elles sont vouées au même déclin et à la même fermeture. Il n'y a pas suffisamment de gens qui sont prêts à sacrifier du temps de cerveau juste pour économiser entre 5 et 15 dollars ou euros. Et le problème, c'est que la publicité, c'est fondamentalement une économie de volume. Donc, ouais. D'après moi, ça ne peut pas marcher.
Et est-ce que tu penses, comme je le craignais dans le podcast précédent, que cette manière de suivre le regard pour être certain que tu regardes bien les publicités pourrait se généraliser à l'intégralité des pubs qu'on pourrait voir sur sur Android, par exemple, excusez-moi.
Y a déjà des affichages publicitaires qui sont plus ou moins exigeants. Il y en a qui te bloquent le bouton back. C'est quelque chose qui va arriver maintenant. Encore une fois, est-ce que ça va vivre? Je suis pas certain. Tu vois, le filtrage publicitaire, il vit et il devient majeur parce que les gens se rendent pas compte qu'on leur prend plus finalement, alors que ça, on est sur vraiment quelque chose de beaucoup plus invasif. Il faut regarder 10 secondes la pub et que ça se rend compte que tu la regardes pas, là ça va commencer à faire chier les gens. Les gens vont désinstaller l'application qui est le support de la publicité et c'est un format publicitaire qui va de fait moins se vendre, etc. et finir par mourir. Je pense que les trucs impactant sur la personne qui subit la publicité marche pas, et ce qui fonctionne, c'est vraiment les trucs où les gens se rendent pas compte en fait.
Ouais, mais je pense aussi, d'ailleurs moi personnellement je commence à en avoir ras-le-bol des publicités qui se lancent avec une vidéo et que le sont à fond, quoi. Ça devient très fréquent,
c'est très
pénible, et c'est vraiment pénible, donc j'espère qu'ils vont arrêter avec ça et qu'ils vont pas en renchérir en suivant mon regard, parce que sinon je crois qu'effectivement ça pourrait je pourrais effectivement désinstaller tout ça. On continue avec des téléphones mobiles, avec donc le champion de toute catégorie de la photographie sur téléphone. Alors, quel est le meilleur photophone? Ça a été le Pixel 3 pendant un moment, et apparemment, désormais, il s'agit du Huawei P30. et du Patreon 30 Pro aussi. Alors, ce sont des téléphones qui sont à peu près magiques, puisque ils ont, alors le TDP30 donc, a 4 appareils photo, donc 4 caméras, 4 capteurs. Il y en a un qui possède un zoom télescopique qui est quand même assez, assez extraordinaire, mais je pense que le truc le plus impressionnant, c'est l'incroyable sensibilité du capteur, l'incroyable capacité qu'a ce téléphone à faire des photos dans la nuit, voire dans le noir complet, puisque il y a eu des comparatifs sur internet qui sont vraiment bluffants. C'est exactement comme si le mode nuit du Pixel 3 était en permanence activé, mais en plus c'est meilleur, c'est-à-dire que les photos sont plus précises et bien mieux piquées. Alors, son principal atout, donc, c'est ce capteur principal qui ouvre à 1.6, qui a 40 mégapixels, et qui utilise une nouvelle technologie qui est super intéressante. Alors, eux, ils appellent ça le super spectrum. C'est une appellation marketing, hein. Mais c'est intéressant parce que au lieu d'avoir des filtres rouge, vert et bleu, on passe à des filtres rouge, jaune et bleu. Et l'intérêt, c'est que le jaune absorbe moins de lumière que le vert, ce qui permet d'avoir plus de lumière sur les photos et ce qui aide donc le téléphone à avoir un mode nuit aussi, aussi impressionnant. Bon, voilà, c'est vrai que si vous cherchez un photophone, apparemment, c'est le P30 qu'il faut prendre. Tu es content de ton... Je ne sais pas quel téléphone tu as, je sais pas si tu...
On ne va pas en parler, c'est un sujet qui fâche en ce moment.
Ah, pardon. On va passer très rapidement.
Tu vois, on parlait de réparabilité, et OnePlus a refusé de prendre en charge mon 5T après qu'ils aient chié une mise à jour qui m'a enlevé le tactile, alors que je jure, le téléphone fonctionnait très bien avant, et que je ne suis pas le seul sur les forums de OnePlus à qui c'est arrivé. Et ils ont refusé de le prendre en charge, parce que mon téléphone a pris l'eau. Enfin, les indicateurs d'humidité sont positifs, ce qui est tout le temps le cas si vous avez déjà téléphoné une fois sous la pluie, ce qui est un peu encore plus dommageable dans le cadre d'un téléphone qui est étanche, même s'il n'est pas garanti étanche. Et puis surtout, ça a zéro rapport avec la mise à jour. Donc voilà, on parle de réparabilité. C'est compliqué.
Ah ouais, je compatis, je suis désolé. Bon, après, il te reste toujours la possibilité d'utiliser une souris Bluetooth avec ton téléphone.
Super. Non,
je suis désolé. Je suis désolé. Bon, écoute, je ne sais pas si ton téléphone est un Sony, mais pour Sony, ça ne va pas très très fort, hein, puisque là, apparemment, leur part de marché a encore baissé, puis ils étaient quand même à 3% il y a 2 ans, là, ils sont passés à 1%. Et bon, bah, malheureusement, les conséquences ne se font pas attendre, puisque Sony va... d'ici à 2020, licencier la moitié de ses effectifs dans la division de téléphonie. Petit à petit, il semblerait que Sony peut-être se résolve à ne plus proposer téléphone ou pas, je ne sais pas exactement, mais en tout cas pour l'instant, c'est le chemin que ça prend, malheureusement. Malheureusement, parce que moi j'aimais bien, au passage, le design général des Sony, moi j'aimais bien, mais bon, bref.
Oui, ils ont des form factors qui sont pas classiques dans l'industrie, et c'est une bonne chose. Moi, je ne suis pas particulièrement fan, mais en tout cas, je trouve ça cool qu'il y en ait des différents.
Ben exactement. Et on va conclure peut-être ce bref sur une news qui m'a étonné, mais plutôt dans le bon sens. C'est apparemment Burger King va dans le Missouri, hein, dans la région de Saint-Louis, va tester les Impossible Burgers dans ses Impossible Whopper. Alors, vous connaissez sans doute le Whopper, hein, le hamburger iconique, on va dire, de Burger King. Et bien, pour 1€ de plus, vous aurez le droit à un burger aussi bon, aussi juteux, enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils disent, mais sans viande. Et c'est donc de l'Impossible Meat qui sera à l'intérieur. Pour l'instant, c'est une expérimentation qui sera limitée à 59 restaurants, mais bon, voilà, peut-être que ça pourra se généraliser. Est-ce que tu irais manger, toi, son Impossible Whopper, Pod?
J'irai tester, c'est certain. Il y a un mais, et pour ça, il faut aller un petit peu plus profondément dans le sujet. En ce moment, il y a deux technologies, parce que on passe le cachet, on se parle effectivement de technologies, même si ce sont des recettes alimentaires. Deux technologies qui s'affrontent. Il y a Impossible Meat, qui est celle dont on parle en ce moment, donc avec Burger King, mais il y a aussi Beyond Meat. Beyond Meat, qui est disponible dans différentes chaînes, au Canada par exemple, chez IW, mais aussi dans certains restos indépendants, comme Dirty Dogs à Montréal, ou chez Cham, qui est un truc de bouffe syrienne, mais qui fait des burgers Beyond Meat, parce qu'apparemment, je sais pas, c'est un plat syrien. Va savoir. Et en gros, pour poser un petit peu le contexte, Beyond Meat, c'est pas mal intégralement végétal. Il travaille surtout sur la texture. Le goût est similaire, mais il n'est pas identique à celui de la viande. Là où Beyond Meat, pardon, ou Impossible Meat, Impossible Burger, Impossible en fait, d'une façon
c'est
générale.
C'est Impossible, ouais.
Oui, et beaucoup plus proche, voire bluffant en termes de similarité avec la viande. La façon dont ils fonctionnent, c'est qu'ils font un spectrophotographe. Spectrophotomètre, photographe de. Oh, voilà, c'est compliqué comme mot. Hein.
Ouais, un spectrographe, on va dire, un truc comme ça.
Merci, un spectrographe de masse sur le type de viande qu'ils veulent reproduire. Ils récupèrent une sorte de signature chimique des différentes saveurs qui composent la viande une fois cuite. Et ils vont ensuite essayer de le reproduire. Et pour ça, ils ont différents trucs, mais l'ingrédient principal, c'est une sorte d'hémoglobine de synthèse. Je dis une sorte de, parce que c'est pas de l'hémoglobine, c'est une autre protéine, mais qui a les mêmes propriétés que l'hémoglobine. C'est une protéine que l'on retrouve dans les racines des plants de haricots, de soja, ce genre de plantes, mais qu'il aurait été beaucoup trop cher de produire de cette façon-là. Et donc, c'est un gène qui a été transplanté à une bactérie pour pouvoir être produit en masse. Donc, essentiellement, ils ont une machine où ils mettent du sucre et récupèrent une espèce d'hémoglobine de synthèse dont ils se servent pour faire ces fameuses galettes qui ressemblent à s'y méprendre à de la viande. Voilà, une fois que le contexte est posé...
Et là, on a tout de suite beaucoup moins envie d'en manger, c'est ça le problème.
Exactement. C'est bon, du moins, je ne l'ai pas goûté personnellement, mais Ulrich l'a goûté. Moi, j'ai goûté le Beyond Meat, c'est pas mal. Mais j'ai du mal à... En fait, chez moi, je mange rien qui a déjà été processé de façon industrielle. Et donc, Beyond Meat, ça ne me pose pas de problème parce que c'est quelque chose que, avec un peu de travail, je suis capable de reproduire dans ma cuisine. Alors que Impossible, c'est quelque chose que fondamentalement, je serais incapable de reproduire dans ma cuisine. Donc, ce n'est pas quelque chose que je mangerais sur une base régulière. Et outre ça, on est dans un contexte de copyright finalement de recettes alimentaires avec des futurs géants alimentaires qui s'affrontent je ne sais pas exactement de quel bois se nourrira le feu de l'avenir alimentaire mais ça fait bizarre, je peux vous le dire, de voir un petit TM pour trademark sur les menus des restaurants dans lesquels on commande, parce que c'est exactement ça.
Oui, et d'ailleurs, il y a même une troisième voie, hein, c'est la voie de la viande de synthèse, complètement, c'est de la vraie viande, de vrais muscles, de véritable animal, mais qui a été élevé, on va dire, enfin bon, qui a été donc développé, cultivé en laboratoire. Et donc, je ne sais pas s'il y aura des problèmes de trademark là ou pas, mais c'est pas impossible aussi qu'on puisse avoir de la viande de canard machin TM, parce que, ben voilà, c'est... C'est peut-être une manière de produire de la viande de canard particulière, protégée par des brevets particuliers. Je ne sais pas exactement, même si c'est... Parce que tu l'as dit, hein, les deux solutions végétales sont déjà en production, enfin, sont prêtes, hein, pour le marché, quoi. C'est pas le cas de la viande artificielle, mais ça pourrait l'être dans la décennie qui vient. Donc, voilà, il y a encore une troisième possibilité. Oui, c'est vrai que ne pas manger d'aliments ultra transformés, bon, bah, dans le cas de la viande artificielle, c'est pas est-ce que ce sera un aliment ultra transformé, c'est compliqué aussi à savoir, quoi. Bon, le futur, voilà, toujours pareil, dépasse nos espérances et notre imagination souvent. Donc c'est quand même assez intéressant à suivre. Si tu veux bien, bah, on peut peut-être passer au bonus, Topod. Ou est-ce que
oui, c'est parfait. D'autant plus que je n'en ai pas.
Tu n'as pas de bonus.
Oh non, là je là. N'ai pas fait mes devoirs.
Mais ce n'est pas grave parce que moi, des bonus, j'en ai 5. Et oui, 5 annonces, on va dire, puisque il y a. Alors, je triche un petit peu évidemment, puisque c'est. Je ne sais plus, c'était TechCrunch ou bon, bah, je ne sais plus exactement, mais c'est pas grave. Il recensait 5 petites expériences amusantes avec le deep learning. Alors en fait, c'est juste des applis web, hein, tout simplement, qui vous permettent d'utiliser des algorithmes, de tester des algorithmes de deep learning. Alors on retrouve, parmi les 5 qu'on connaît déjà, puisque c'est This Person Does Not Exist, donc vous pouvez générer des têtes de gens qui n'existent pas, mais qui sont quand même plus vrais que nature. Et il y en a donc 4 autres qui sont plus ou moins, on va dire, convaincant. Mon petit préféré, c'est peut-être Sémantris. Voilà, ça s'appelait Sémantris. Donc, c'est comme Tetris, mais sémantique. Sémantique Tetris. Pourquoi ? Parce que c'est un jeu de... Alors, c'est une sorte de jeu de puzzle, la Tetris, avec des blocs de couleurs. Mais dans ces blocs de couleurs, il y a des mots. Et ce qui est marrant, c'est que pour les faire des... pour les détruire, pour les faire disparaître, il faut donner des mots par association d'idées. Donc, en fait, vous jouez par association d'idées, mais avec une machine. Et c'est vrai que moi, ça m'était jamais arrivé. Je trouve ça assez marrant. C'est plutôt réussi, bien que ce soit parfois un petit peu approximatif encore. Mais bon, c'est une démo, un web app. Hein. Donc, c'est Sémantris à tester. Il y a aussi AutoDraw qui interprète vos petits schémas tout mal faits à la souris et qui en fait des très beaux schémas. Voilà, il essaie de savoir quelle forme c'est, il remplace par une forme jolie. Il y a aussi Talk to Books qui est un truc de Google qui est assez marrant, qui vous pose une question ou alors vous écrivez une phrase. Et l'algorithme va scanner un corpus assez impressionnant de livres, mais dans le texte, c'est-à-dire la totalité des textes de tous les livres, et il va vous sortir des extraits qui sont en rapport avec ce que vous avez dit. Et ça marche plutôt bien, franchement c'est assez bluffant. Beaucoup moins bluffant, c'est Cyborg Writer qui est censé finir vos phrases comme le ferait Shakespeare. Je pense que c'est comme un Shakespeare fini, mais alors fini à la vodka, parce que c'est vraiment n'importe quoi. Je pense que c'est probablement le truc le plus nul des cinq machins. Donc voilà, ça vous permet de vous amuser un petit peu avec le deep learning, de voir que bon, finalement c'est marrant, c'est intéressant, mais bon voilà, c'est pas forcément miraculeux tout le temps, ça marche pas forcément super bien tout le temps. Donc à tester si vous voulez. Je précise quand même que tout ça est en anglais malheureusement, donc c'est-à-dire que tous ces trucs, ces mentrices et tout, vous devrez écrire en anglais, donc il faut quand même être un petit peu à l'aise en anglais pour pouvoir en profiter. Voilà, et ben je pense que ça va conclure cette émission sur ces bonus. Pierre-Olivier, merci beaucoup d'être venu, de t'être rendu disponible pour ce nouvel épisode de Tech Café.
C'est toujours un plaisir. Merci à toi de m'avoir accueilli. Hein.
Mais non, mais c'est un plaisir. Et où est-ce qu'on peut te retrouver par ailleurs sur Internet ?
Eh bien, vous pouvez suivre beaucoup de mes coups de gueule sur Twitter. Et puis, évidemment, dans le salon de discussion de Tech Café, où je n'ai pas juste des coups de gueule, hein, je vous rassure, l'ambiance est tout à fait cordiale. Venez, rejoignez-nous, soyons nombreux.
Et oui, soyons nombreux.
Des épisodes.
Exactement, et c'est vrai que tu as une présence sur le Telegram qui est toujours très précieuse, puisque on y parle de tout, c'est très intéressant. Vous pouvez effectivement vous venir sur le Telegram de Tech Café pour interagir avec nous ou entre vous. Moi, je suis Guillaume Bodjespala, je vous remercie bien entendu d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout, et je vous dis donc à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Tech Café, bien entendu. Ciao, ciao, bonsoir.